Vous écoutez, on lit pour vous.
Les appartements de l'espoir. Un dossier de Katia Gagnon et Olivier Jean, paru le 11 février 2024 dans la presse. Une résidence supervisée pour des gens vivant avec une déficience intellectuelle. C'était le rêve d'une mère de Shawinigan qui ne trouvait pas de logis adéquat pour son fils. Pendant 4 ans, Nathalie Deschênes et ses complices ont porté à bout de bras un projet de 3,5 millions qui accueille aujourd'hui 11 locataires. Au cœur de l'initiative, autonomie, soutien professionnel et vie communautaire. À Shawinigan, pendant toute la petite enfance de son fils, Nathalie Deschênes s'est fait dire par les médecins que la vie d'Alexis serait fortement limitée par sa déficience intellectuelle. Il ne pourrait jamais passer à travers un cours secondaire ou travailler, prédisaient les médecins. Alexis Pronovo a défié tous ses pronostics. Il a terminé une formation professionnelle au secondaire, il travaille dans un supermarché, il suit des cours de batterie et est DJ dans ses temps libres. Et depuis presque 2 ans, il vit en appartement. Un appartement situé dans un immeuble où vivent 10 autres personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. On se disait, ça va être quoi sa vie? Et finalement, il a une super belle vie, se réjouit sa mère. Alexis en rêvait de cet appartement, les autres locataires aussi. Au début de la vingtaine, la cohabitation de Félix Lapointe avec ses parents était devenue difficile. On n'était pas sur le même fuseau horaire, il y avait beaucoup de conflits, raconte sa mère. Félix a donc fait ce que tous les jeunes de cet âge font. Il a commencé à chercher. Il a pris le catalogue RE/MAX. Il a appelé une agente immobilière pour une maison à 3,5 millions avec 5 salles de bain. Michel Lafontaine en rit encore. 4 ans de travail. C'est à ce moment, en 2017, que Mme Lafontaine a décidé de prendre les choses en main. Elle avait visité des appartements supervisés destinés à une clientèle vivant avec une déficience intellectuelle à Louisville. Pourquoi on n'aurait pas ça à Shawinigan? Cette simple question a démarré un processus qui a duré 4 ans. Je suis parti avec 2 feuilles de papier. Madame Lafontaine s'est adjoint plusieurs partenaires, a dressé des plans, fait des budgets, rempli des dizaines et des dizaines de pages de demandes de financement et a organisé des tonnes d'activités pour ramasser des sous. Car pour un projet de 12 logements, évalué à 3,5 millions, il fallait que 1,8 million provienne de la communauté. Michel Lafontaine et ses complices, Jean-François Morand et José Saint-Pierre, ont frappé à toutes les portes, vendu leur projet, convaincu tout le monde. La charge que ça demande de développer un projet de cette ampleur, c'est énorme, résume Mme Lafontaine. De son côté, Félix, qui a maintenant 30 ans, a apporté sa contribution. Il a grimpé le Mont Albert en Gaspésie avec toute une équipe amassant 13 000 $. Il était si épuisé à la fin du parcours que ses partenaires l'ont porté sur leur dos. « Je suis pas capable de regarder ça sans pleurer », dit-il, en se cachant les yeux pour nous montrer la vidéo tournée ce jour-là. On le comprend. Le petit film de 12 minutes tirerait des larmes à un rocher. Et puis, en mai 2022, j'ai mon appart a accueilli ses premiers locataires. Simon, Marie-Christine, Félix, Alexis, David. Ils ont reçu leur clé. Pour la première fois, ils allaient vivre seuls en évitant le modèle devenu quasi obligatoire au Québec pour l'hébergement des adultes vivant avec une déficience intellectuelle qui est la famille d'accueil. Vous écoutez « Les appartements de l'espoir », un dossier de Katia Gagnon et Olivier Jean, paru le 11 février 2024 dans la presse. On est l'endroit dans le monde où on a le plus investi dans le modèle de la famille d'accueil. C'est devenu la réponse pour l'hébergement en déficience intellectuelle. Or, ce modèle-là ne correspond plus aux besoins de jeunes qui ont vécu un parcours d'inclusion, nous dit Martin Caouette. M. Caouette, professeur et titulaire de la chaire Autodétermination et handicap à l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR, s'est associé de très près au projet J'ai mon appart, qui constitue, selon lui, un modèle à exporter. Pour lui, dès le départ, l'organisme en devenir était un formidable laboratoire. On aurait pu avoir un beau bâtiment, mais si on n'a pas les meilleures pratiques d'accompagnement, on retourne dans un modèle institutionnel. Ici, les locataires sont des citoyens à part entière. On n'est pas dans une logique de prise en charge. On leur donne juste le soutien dont ils ont besoin pour vivre la vie qu'ils veulent vivre. Geste symbolique mais capital, les intervenants et les parents frappent aux portes avant d'entrer. Et si le locataire ne veut pas les laisser entrer, il reste dehors. Martin Caouette croit tellement au projet qu'il a traîné Félix Lapointe jusqu'à Paris dans un colloque sur l'autodétermination des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Devant les délégués, Félix a fièrement brandi son bail. Les gens n'y croyaient pas qu'il avait un bail, qu'il avait signé lui-même, raconte Mme Lafontaine. Financièrement, le projet est avantageux. Un logement à J'ai mon appart coûte 3 fois moins cher à l'État qu'un hébergement en famille d'accueil. Merci la vie. Ou Dieu, ou peu importe. Ce que j'aime le plus ici, faire mes affaires, et des fois aller veiller avec mes chums Félix et David, lance Alexis Pronovo. En vidant ses sacs d'épicerie, macaroni au fromage, pizza, concombre, clémentine, lait, il raconte ses premiers pas dans le projet. Les apprentissages ont été importants, concède-t-il. Faire la cuisine, prendre le bus, gérer un budget, tout ça, c'était nouveau, dit-il. Simon Ricard Vallée, 38 ans, occupe un emploi de plongeur dans un restaurant et est passionné de kayak de vitesse. Ses nombreuses médailles sont suspendues à une pagaie sur le mur de son salon. Il a vécu 5 ans en famille d'accueil. Jamais il ne retournerait en arrière, dit-il. Enfin, je peux me faire ce que je veux à manger. Merci la vie, ou Dieu, ou peu importe, renchérit David Savard-Gélina, 44 ans, qui a vécu toute sa vie chez sa mère avant d'avoir une place dans l'immeuble. En plus d'avoir une déficience intellectuelle, David se déplace en fauteuil roulant. Il a eu très peur que son handicap physique lui ferme les portes de l'organisme. Quand j'ai su que j'avais été choisi, j'ai pleuré de joie, se souvient David Savard-Gélina. Les logements sont beaux et lumineux. Les locataires paient 25% de leurs revenus. Il y a une grande salle commune avec une cuisine où ils peuvent se rassembler pour fêter des anniversaires, accueillir la nouvelle année ou regarder un match de hockey. Il y a une cour avec des modules d'exercice pour les sportifs et des bacs de jardinage qui est d'ailleurs ouverte au voisinage. L'idée, résume Michel Lafontaine, est de faire partie de la communauté. 6 personnes travaillent à l'organisme. Les services sont financés par les budgets du CI3S local, qui assure également le suivi individuel des locataires. Le ministre des Services sociaux, Lionel Carman, a été conquis par le projet à tel point qu'il est allé souper avec les locataires en juin dernier. Et puis, un récent don $500 000 de la Fondation Mirella et Lino Saputo a permis d'équilibrer définitivement le budget. Dans le concret, une présence est assurée quasiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, notamment grâce à la présence d'une locataire ressource qui est de faction la nuit. Suzelle Labranche habite la résidence et est de garde la nuit. À 70 ans, elle est, résume-t-elle, l'équivalent d'une grand-maman qui est sur place s'il survient un problème ou un conflit entre 2 locataires. Je me suis très bien adapté à tout ce beau monde-là. Pour les familles des locataires, J'ai mon appart est synonyme de de paix d'esprit. Pour la première fois depuis très longtemps, Michel Lafontaine et son conjoint ont pu partir quelques jours en vacances. Nathalie Deschênes n'était jamais partie en voyage. Elle a visité la Tunisie pendant 3 semaines à l'automne. « Ça fait 40 ans que je m'inquiète pour lui », résume Rita Savard, la mère de David. « Que je me demande, si je pars, qui va en prendre charge ?» Il me disait souvent, « Maman, surtout, meurs pas. » C'est un gros poids qui s'est enlevé de mes épaules. C'était « Les appartements de l'espoir », un dossier de Katia Gagnon et Olivier Jean, paru le 11 février 2024 dans La Presse.
Prévenir les maladies cardiovasculaires, un enjeu au féminin. Un texte de Jean-Chantal Tellier, paru dans l'édition de mars 2024 du magazine Coup de pouce. Cette réalité s'explique en partie par le fait que les femmes ont des symptômes différents de ceux des hommes et qu'elles sont plus susceptibles de recevoir un mauvais diagnostic. Selon la cardiologue Christine Pacheco du Centre Cardio-F du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM, beaucoup de femmes pensent que le cancer du sein est la principale menace pour leur santé, alors que les maladies cardiovasculaires sont en réalité la première cause de décès dans le monde. Ces maladies, qui comprennent l'infarctus, l'insuffisance cardiaque et les AVC, tuent 4 à 5 fois plus de femmes que le cancer du sein. Bien qu'elles touchent plus souvent les hommes, ces maladies affecteront 1 femme sur 3 au Canada. D'après la médecin spécialisée en santé cardiovasculaire de la femme, une des 2 seules cardiologues au Québec à avoir cette surspécialité. Certaines études révèlent que ces maladies, en diminution globale depuis quelques décennies, concernent de plus en plus les femmes de 34 à 55 ans, avec un risque de mortalité plus élevé pour elles que pour les hommes du même âge. Les facteurs de risque propres aux femmes. Si le mode de vie joue un rôle dans cette tendance, il est loin d'être le seul élément en cause. La majorité des Canadiennes présentent au moins 1 facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Les femmes diabétiques et celles qui sont issues de certains groupes ethniques sont particulièrement exposées. De même, les fluctuations hormonales peuvent aussi avoir des effets néfastes sur la santé cardiaque des femmes, notamment pendant la grossesse et la ménopause. Les hormones, et en particulier l'œstrogène, jouent un rôle déterminant dans la santé cardiaque des femmes. La docteure Pacheco note que la protection cardiaque offerte par l'œstrogène pendant les années de reproduction est variable. Les femmes transgenres et celles sous hormonothérapie substitutive, par exemple, ont un risque supérieur de subir un AVC ou une crise cardiaque. De même, les contraceptifs oraux, bien que plus sécuritaires qu'auparavant, ne sont pas sans danger, notamment en cas de forte concentration d'œstrogène ou en présence d'hypertension, de tabagisme ou de facteurs de risque cardiovasculaire. Pendant la grossesse, la pré-éclampsie et le diabète gestationnel augmentent les risques cardiovasculaires. Et après la ménopause, avec la chute de l'œstrogène, de plus en plus de femmes souffrent d'hypercholestérolémie, ce qui accroît aussi les risques de maladies du cœur et d'AVC. Un monde d'hommes. Pourtant, la santé cardiovasculaire est encore largement un monde d'hommes. Par exemple, chaque fois qu'on voit quelqu'un faire une crise cardiaque dans un film ou une série, c'est toujours un homme. Et c'est toujours le même scénario. une douleur forte dans la poitrine qui irradie dans le bras gauche. Les maladies cardiaques chez la gent féminine restent sous-diagnostiquées. Les femmes sont sous-traitées et peu conscientes de leurs facteurs de risque. Le modèle médical est encore basé sur les hommes, ce qui contribue à un manque général de sensibilisation parmi les femmes et les professionnels de la santé, déclare la docteure Jessica Forcillo, chirurgienne cardiaque au Centre Cardio-F du CHUM, qui cherche justement à mieux comprendre, à prévenir et à traiter les maladies cardiovasculaires chez les femmes. Dans les études cliniques en cardiologie, seulement un tiers des participants sont des femmes. Des symptômes différents. La manifestation des maladies cardiovasculaires diffère chez les femmes. La docteure Christine Pacheco explique que les femmes peuvent ressentir une chaleur, une pression ou une lourdeur dans la poitrine plutôt qu'une douleur. Elles peuvent également avoir d'autres symptômes comme une fatigue inhabituelle, un essoufflement, des étourdissements ou des douleurs au ventre. Comme le risque de maladie cardiovasculaire est souvent méconnu des femmes, celles-ci attribuent alors ces symptômes à d'autres causes. Selon une étude de la Fondation des maladies du cœur, 70 % des femmes ne reconnaissent pas les signes avant-coureurs d'une crise cardiaque. Cette difficulté vient du fait que peu d'entre elles participent aux études sur le sujet. Dans les études cliniques en cardiologie, seulement un tiers des participants sont des femmes, précise la docteure Jessica Forcillo. C'est une des choses que le Centre Cardio-F tente de changer. Les femmes peuvent d'ailleurs s'inscrire sur le site pour faire partie de différentes études. Les recommandations en matière de diagnostic et de traitement reposent principalement sur des données obtenues auprès des hommes. Pourtant, le cœur et les artères des femmes sont plus petits et la plaque se forme différemment. Les tests diagnostiques standards, tels que les angiographies et les tests d'effort, ne sont souvent pas assez sensibles pour détecter les maladies cardiaques chez les femmes, précise la médecin. Alors, comment établir un diagnostic juste si l'on ignore ces différences? Reconnaître les signes d'une crise cardiaque chez la femme. Les symptômes d'une crise cardiaque chez la femme peuvent différer de ceux typiquement observés chez l'homme. Il est crucial de les connaître et de les reconnaître pour agir rapidement. Douleur ou gêne thoracique. Une sensation de pression, de serrement ou de douleur dans la poitrine qui peut être constante ou intermittente. Essoufflement. Difficulté à respirer ou sensation de manque d'air, même sans douleur thoracique. Douleur dans d'autres zones du corps. Inconfort ou douleur pouvant se propager au bras, au dos, à la mâchoire, au cou, à l'épaule ou à l'estomac. Fatigue inhabituelle. Une fatigue extrême ou un épuisement soudain sans raison apparente, pouvant survenir des jours ou des semaines avant la crise. Indigestion ou nausée. Sensation de malaise gastrique, indigestion ou nausée, parfois confondue avec des problèmes digestifs. Anxiété et palpitations. Sentiment soudain d'anxiété, accompagné de palpitations ou de battements de cœur irréguliers. Bouffées de chaleur ou étourdissement. Sueurs inhabituelles ou sensations de vertige ou de léger malaise. Il est essentiel de rappeler que les femmes peuvent ne pas ressentir tous ces symptômes et que ceux-ci peuvent varier en intensité. En cas de doute, ou si plusieurs de ces signes apparaissent, on contacte immédiatement les services d'urgence. Une intervention rapide peut sauver des vies. Témoignage. En juillet dernier, Natacha, 48 ans, se rappelle avoir eu des douleurs pendant ses règles, comme à l'habitude. Cette fois, toutefois, les douleurs étaient plus intenses. Mon corps me lançait en plus des signaux de fatigue, mais comme j'avais un nouveau boulot, je pensais que c'était juste le stress, explique Natacha. Un soir, la douleur est devenue insupportable. Elle s'est dit que ça passerait, qu'elle irait consulter dans quelques jours si la situation ne s'améliorait pas. Mais mon fils a senti que quelque chose n'allait pas. Il a appelé les secours sans me prévenir. « Il m'a sauvé la vie », souligne-t-elle. Les paramédicaux ont en effet annoncé à Natacha qu'elle était en train de faire un infarctus. 4 jours plus tard, elle se faisait opérer à cœur ouvert pour un pontage coronarien. L'intervention s'est bien passée, mais une infection post-opératoire est venue compliquer les choses. C'est maintenant réglé. Aujourd'hui, Natacha se reconstruit doucement et veut passer un message qui va bien au-delà de son récit personnel. J'ai accepté de témoigner pour que d'autres femmes comprennent. Écoutez votre corps, vraiment. Ne balayez pas sous le tapis les signaux qu'il envoie. Et surtout, que ceux qui vous entourent prennent aussi ces signaux au sérieux. Moins présente en réadaptation cardiaque. La réadaptation cardiaque peut être essentielle à la récupération physique et émotionnelle, comme le montrent les études. Mais des lacunes existent également dans ce domaine. Les recherches indiquent que les femmes ont jusqu'à 50 % moins de chances que les hommes de participer à des programmes de réadaptation cardiaque, souvent parce qu'elles ne sont pas guidées vers un tel programme ou parce qu'elles se butent à d'autres obstacles en matière de suivi. Elles ont notamment tendance à minimiser leurs propres besoins. Résultat, les femmes victimes d'une crise cardiaque sont plus susceptibles de mourir ou de subir une deuxième crise cardiaque que les hommes. Miser sur la prévention. Selon la docteure Christine Pacheco, 80 % des crises cardiaques sont évitables. Les femmes peuvent réduire les principaux facteurs de risque en contrôlant leur hypertension artérielle, en ne fumant pas et en gardant un poids santé. Elles devraient également demander à leur médecin d'examiner leur cœur. « Nous devons nous donner les moyens d'agir », dit-elle. « La connaissance est un pouvoir ». Apprenons à être consciente des risques cardiovasculaires. C'était Prévenir les maladies cardiovasculaires, un enjeu au féminin. Un texte de Jean-Chantal Tellier, paru dans l'édition de mars 2024 du magazine Coup de pouce.
Le soutien des victimes est notre responsabilité collective. Une lettre ouverte de Stéphane Gay et Pierre Blot, parue le 8 février 2024 dans la presse. Le Québec souligne l'anniversaire de la tragédie survenue à Laval le 8 février 2023 lorsqu'un conducteur d'autobus a percuté une garderie. Stéphane Gay est psychologue, co-directeur du Centre d'études sur le trauma au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et professeur à l'École de criminologie et au département de psychiatrie et d'addictologie de l'Université de Montréal. Pierre Blot est médecin psychiatre, directeur national des services en santé mentale et en psychiatrie légale, ministère de la Santé et des services sociaux. En tant que professionnel de la santé mentale spécialisé en psychotraumatologie, nous considérons avoir un rôle à jouer en matière de sensibilisation et souhaitons encourager une approche positive, le tout en respect de la mémoire des victimes et des personnes affectées par ce drame. Plusieurs autres tragédies ont frappé le Québec au cours des dernières années et restent gravées dans nos mémoires. On peut penser notamment à l'attentat à la Grande Mosquée de Québec en 2017 ou au drame à Amqui en mars 2023 quand un chauffeur de camionnette a heurté volontairement des passants. Tous ces événements, inexpliqués et à bien des égards inexplicables, ont des impacts profonds sur les personnes touchées, notamment les familles et les premiers répondants, mais également sur la communauté dans son ensemble. Le trouble de stress post-traumatique, le deuil, l'anxiété et les difficultés de fonctionnement figurent parmi les conséquences qui affligent non seulement les personnes directement concernées, mais aussi celles touchées indirectement. La littérature scientifique en santé mentale démontre que réitérer les détails graphiques ou sensationnels peut non seulement retraumatiser les victimes, mais aussi entraver leur processus de rétablissement et de guérison. Notre responsabilité collective est de soutenir les survivants de telles tragédies et leurs familles avec sensibilité, empathie et retenue. De les aider à surmonter leur traumatisme et à retrouver une certaine normalité. Plus que jamais, demeurons bienveillants les uns avec les autres. Restons à l'affût des réactions et des émotions de nos proches. Soyons conscients que les commémorations de tels événements peuvent provoquer un état de vulnérabilité chez certaines personnes, même si elles ne sont pas directement concernées. Nous souhaitons profiter de cette tribune pour réitérer que plusieurs ressources sont disponibles, notamment en ce qui a trait au soutien pour les victimes et leurs familles, mais également pour la population générale. La ligne téléphonique Info Sociale 811 est d'ailleurs un moyen de joindre rapidement et en tout temps un professionnel ou une professionnelle en intervention psychosociale. Enfin, nous jugeons important de mettre en lumière la résilience des communautés et les efforts de soutien lorsque des événements comme celui de Laval surviennent. Ces démonstrations d'entraide et de bienveillance apportent un message d'espoir. Nos pensées continuent d'être avec les victimes, leurs familles et tous ceux et celles qui ont été touchés par cette tragédie. C'était Le soutien des victimes est notre responsabilité collective, une lettre ouverte de Stéphane Gay et Pierre Blot, parue le 8 février 2024 dans la presse.